Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Zinzine. Aujourd'hui, 30e numéro de notre émission Mare Nostrum, avec Ben à la technique. Fabrice n'est pas là aujourd'hui, il est alité, donc il n'est pas là. Et donc, au micro, Raymond, qui assure la préparation et la présentation de cette émission. Alors aujourd'hui, notre sujet va porter sur la pêche dans l'Empire romain, les méthodes qui sont utilisées, la consommation des produits de la mer, l'importance économique, puisque ça joue quand même un rôle important dans l'économie de l'Empire romain. Alors, pour évoquer ce thème, nous recevons donc aujourd'hui Emmanuel Bott. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc Emmanuel Bott, vous êtes chargé de recherche au CNRS, au centre Camille Julian, qui fait partie de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, MMSH, au sein d'Aix-Marseille Université, avec qui nous sommes partenaires. Vous êtes spécialiste d'histoire romaine, et vos travaux ont surtout porté, et portent d'ailleurs toujours, sur l'exploitation des ressources halieutiques en Méditerranée, particulièrement le poisson, même la sauce de poisson sur laquelle vous avez fait votre thèse. Et vous avez publié en 2014 un bouquin dont le titre est un peu... ne fait pas penser à l'Empire romain, on va dire. Voilà.
Pas directement.
Voilà, pas directement. Ça s'appelle Fish and Chips, bien sûr, comme le célèbre plat britannique. Ouvrage qui est publié à la Bibliothèque d'archéologie méditerranéenne et africaine. Donc, c'est en 2014. Alors, on va donc embrayer sur ce sujet de la pêche dans l'Empire romain en introduisant peut-être les méthodes de pêche, puisque la pêche, c'est d'abord un moyen de se nourrir. Donc, quels sont les types de pêche qui sont pratiqués pendant l'Empire romain? Est-ce que ça a beaucoup évolué par rapport à aujourd'hui? Je pense que oui.
Les méthodes en elles-mêmes, oui, grâce à l'industrialisation, les méthodes ont évolué. Mais ce qu'on peut dire, c'est que pour les populations qui vivaient au bord de l'eau, que ce soit au bord de la mer ou au bord de cours d'eau, l'accès aux poissons constitue en effet une denrée principale de l'alimentation au quotidien. Sur les techniques de pêche, il n'y a pas d'évolution grandement majeure entre, on va dire, les périodes préhistoriques et les périodes historiques. Ce qu'on sait, par exemple, c'est que il y a des méthodes dites passives, donc tout ce qui est pêche à l'aide de filets. Mmh. C'est ce que nous dit Platon, et qui sont des méthodes que Platon décrit de vil, parce que justement, elle n'utilise que la ruse, elle n'affronte pas l'animal. Et face à ça, il y a les pêches dites actives, donc tout ce qui est pêche au harpon, etc., où là, on se confronte à l'animal et on essaie de le tuer. Ensuite, il y a différents types de pêche, en effet, et ça, on en a de belles représentations à la fois dans les mosaïques, et on en a aussi quelques descriptions, très souvent lacunaires, dans les sources littéraires. Ce qu'on sait, c'est que les techniques, on va dire simples et traditionnelles, la pêche au harpon, la pêche à la ligne, ont toujours existé, enfin en tout cas depuis la préhistoire, et jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé. Ce qui a évolué, en tout cas, ce sont les techniques de pêche au filet, puisque on voit apparaître, dans l'Antiquité gréco-romaine, les techniques qu'on appelle les techniques de la madrague, qui sont celles que l'on connaît, qu'on nous connaît encore aujourd'hui en Méditerranée, et qui ont été actives au moins jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et puis qui ont eu tendance à péricliter avec l'invention de la pêche à la Seine tournante. Donc avec l'arrivée des bateaux, etc., à moteur, ça a considérablement changé les techniques. Mmh. Et donc la madrague a eu tendance à disparaître. La madrague a été attestée au moins depuis l'époque grecque, puisque certains auteurs nous disent qu'on voit apparaître en mer de véritables villes, composé avec des filets, où on construit des murs avec ces filets, des portes, etc., à travers lesquelles on va diriger les bancs de poissons. Parmi ceux-ci, évidemment, le thon va être le premier acteur, on va dire. Et on va diriger les poissons vers ces différentes pièces, jusqu'à arriver à une pièce finale, qu'en italien, on appelle la camera finale, et qui est la chambre de la mort, en fait.
Oui.
Et dans laquelle on va décider, une fois qu'elle est suffisamment remplie, de relever le filet qui est au fond pour tuer les thons, en fait, et les monter à bord des embarcations pour les ramener à terre et les traiter.
C'est ce qui se passe encore en Sicile aujourd'hui.
C'est ça. C'est ce qu'on appelle, c'est une scène qui a pu choquer certains, et qui s'appelle la matante, ça, qui est véritablement une mise à mort des poissons, puisque là, ça plairait à Platon, puisque c'est un vrai combat face à l'animal, puisque on a, dans les textes qu'on a, et de, notamment tout au long du 19e et au début du 20e, on a des descriptions du nombre de captures, de la taille des espèces. Et là, on voit que les thons, notamment, peuvent dépasser, font facilement plus de 2 mètres et jusqu'à plusieurs centaines de kilos.
Ah oui,
il y a un vrai combat avec l'animal.
Alors, j'avais une petite question subsidiaire qui m'est venue comme ça en travaillant le sujet. Je me demandais si le filet et le trident qu'ont les gladiateurs ont quelque chose à voir avec la pêche.
Oui, sans doute. C'est ce qu'on appelle le rétière, du coup.
Oui, c'est ça.
Et le... Oui, très vraisemblablement, c'est un bon rapprochement, puisque ça, la technique du filet avec le harpon, même si directement, ce sont deux techniques différentes, puisque normalement, une fois que l'animal est harponné, on n'aura pas forcément besoin du filet.
Oui, c'est ça.
Peut-être que chez les gladiateurs, une fois que l'adversaire est harponné, on n'a peut-être pas besoin du filet non plus. Mais...
Oui, c'est peut-être ça le rapport. Ouais, donc c'est un rapport qui est justement qui a trait à la méthode finalement, hein, la méthode de mise à mort. Quoi, hein.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a reproduit dans le combat de gladiateurs un combat qu'on pouvait éventuellement faire avec d'énormes poissons.
Exactement.
En tout cas, comme on pouvait les imaginer. Alors donc voilà, bon, pas de très grands bouleversements. Les madragues, on sait que ça existe encore un peu aujourd'hui, moins. Mais enfin, ça a tendance un peu à disparaître, mais ça existe encore aujourd'hui. Et puis, les outils habituels et cette distinction entre la pêche active et la pêche passive. Alors, on peut peut-être maintenant... Il y a une chose que je voulais vous demander, d'ailleurs, à propos des méthodes de pêche. Est-ce que vous, dans votre travail, parce qu'on va peut-être le voir après, le long de notre entretien, vous avez utilisé des méthodes particulières de recherche de sources, etc., pour vos travaux?
Mais dans ce qu'on fait, en tout cas dans l'archéologie traditionnelle, je pense qu'aujourd'hui c'est une discipline, on ne peut pas voir l'archéologie sans la voir de manière interdisciplinaire, et du coup on est obligé de croiser non seulement évidemment avec les sources littéraires et iconographiques, mais aussi avec les sources ethnographiques pour voir ce qui se fait, et justement pour voir dans la longue durée les méthodes, comment elles évoluent, comment elles s'améliorent et comment elles disparaissent.
D'accord. Donc c'est ça on va donc voir là, puisque la prochaine question que je vous pose maintenant, et là peut-être qu'il y aura des choses intéressantes à dire concernant les sources, c'est la place du poisson dans la consommation. Est-ce que les Romains ont l'habitude d'une consommation importante ou pas?
Ben ça a aussi évolué avec le temps, puisque... Ça a beaucoup évolué, notamment grâce aux méthodes de conservation, puisque dans l'Antiquité, les populations qui ont accès aux poissons sont celles qui habitent directement soit proche des cours d'eau, soit au bord de la mer. Pour celles qui sont éloignées du rivage, il n'y a qu'un moyen, si on veut avoir du poisson, c'est de l'avoir de manière conservée. Donc, soit sous forme de salaison, soit sous forme de poisson fumé ou salé, ou séché, soit sous forme de sauce. Ce qu'on sait, c'est que pour les populations qui habitent au bord de la mer, on en a de très bons exemples avec Pompéi et Herculanum, le poisson fait partie de leur diète au quotidien. Mmh. On en a un bon exemple, puisque Herculanum a été fouillé un égout dans lequel ont été trouvées toutes les descentes en fait, de latrines, et du coup, on a pu trouver là-dedans tous les restes de l'alimentation des Romains dans leur quotidien.
Ah oui.
Et là-dedans, les restes de poissons sont suffisamment nombreux pour montrer qu'ils consommaient à la fois du poisson frais, mais aussi du poisson sous forme de conserve.
Mmh. D'accord, donc l'archéologie permet de confirmer cette consommation importante, en particulier en bordure de mer.
C'est ça, et surtout avec l'aide des archéo-ichtyologues, puisque ce sont eux qui vont, du coup, spécialistes de l'identification des restes de poissons, vont nous permettre de comprendre quelles espèces, évidemment, sont utilisées, mais aussi l'âge des poissons, etc. Et donc ça nous permet de restituer un régime alimentaire, et on peut même le compléter avec ce que font aujourd'hui là, notamment les préhistoriens, ce qu'on appelle les analyses de paléodiète, puisque grâce à ça, on va analyser les isotopes de certains éléments qui se trouvent dans les eaux. Et grâce à ça, on peut restituer le régime alimentaire d'une personne au cours de son existence.
C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On va faire une petite pause musicale.
Thank you.
Alors donc, une consommation de poissons importante, quelles sont les espèces et comment on les identifie? Vous nous en avez déjà dit un petit peu, un petit quelque chose, mais précisons un peu tout ça. Quelles sont les espèces qui sont le plus consommées?
Alors, les espèces, sont donc, comme on le disait tout à l'heure, on l'identifie grâce aux travaux des archéo-ichtyologues. Néanmoins, on a quelques problèmes majeurs qui sont, concernent notamment les poissons d'eau douce, puisque les sources à leur sujet sont quand même très taiseuses, on va dire. Et le problème, c'est qu'on se retrouve confronté, du coup, à une surreprésentation des espèces marines, au premier rang desquels on va trouver le thon, évidemment. Et là-dedans, les espèces principales qu'on va trouver, à la fois dans les restes archéologiques, mais aussi dans les sources, ce sont le thon, le maquereau, l'anchois et la sardine. Grosso modo, c'est le quartet gagnant.
Ouais.
Là-dedans, le thon, c'est le plus difficile à tracer, en fait, malgré justement ce qu'on pourrait penser, puisque c'est le plus gros de la série.
Et oui.
C'est que justement, vu sa taille, il est débité. Et donc, les os sont éliminés.
Ah oui, d'accord.
Alors que pour les autres, notamment anchois et sardines et maquereaux, leur taille fait qu'ils sont traités en entier. Et du coup, on va retrouver leurs restes, soit dans les amphores, soit dans les bassins de salaison, enfin dans les ateliers de transformation où on les conserve.
D'accord, oui. D'accord. Et en dehors des poissons, est-ce qu'il y a d'autres produits tirés de la mer qu'on consomme? Je ne sais pas, les crustacés, les coquillages, etc.
Oui, alors du coup, les crustacés là, font partie aussi de la diète, pour ce qui concerne les produits halieutiques. Et notamment, le huître et moule, on sait sans aucun doute que ça fait partie des aliments consommés. Huître et moule, on le sait parce qu'on a des représentations sur les monnaies déjà dès l'époque grecque. Donc on sait que ça fait partie que c'est même un symbole important. Et parmi ceux-ci, du coup, les huîtres sont même au premier rang. Et à l'époque romaine, on a même... Certains disent qu'on a l'invention, justement, de l'ostréiculture. Certains se vantent... On a un passage qui parle d'un certain Sergius Orata, qui se vante d'avoir inventé dans les eaux du Lucrin, donc c'est un petit lac près de Baïa, donc dans la baie de Naples, d'avoir inventé l'ostréiculture, où on dit que, grâce à un système de tuiles, en fait... des tuiles romaines, donc des tuiles plates, il a inventé l'élevage d'huîtres sur ces tuiles, et que grâce à ça, il est devenu très riche et très célèbre. Et on sait par d'autres sources qu'en effet, les huîtres font partie de l'alimentation des aristocrates. Par exemple, voilà, on sert des huîtres lors d'un mariage, donc pour une grande occasion.
C'est un grand plat.
Ou un empereur se fait envoyer des huîtres alors qu'il est un déter sur l'image germanique en conflit. Et pour son repas, il décide d'avoir des huîtres. Donc, en effet, il faut lui amener des huîtres.
Donc, déjà de l'élevage, quoi.
Ben, c'est toute la question, en fait, de savoir justement où on fait la différence entre élevage et pisciculture, on va dire.
Ouais.
Puisque la question se pose aussi pour les espèces, pour les poissons. Puisque dans l'Antiquité, notamment romaine, on sait qu'existe des viviers. On en fouille encore aujourd'hui, notamment en Croatie. Puis un vivier de taille extraordinaire a été trouvé à Narbonne il y a quelques années. Et là-dedans, toute la question est de savoir justement, le débat c'est de savoir si on fait de l'élevage de poissons, ou de la pisciculture vraiment proprement parler, ou depuis on maîtrise aussi la reproduction des poissons, ou si on se contente de récupérer des œufs qu'on fait éclore, ou si on récupère des alevins, qu'on installe dans des bassins et qu'on laisse les poissons grandir en les nourrissant.
Ah oui, d'accord. Oui, donc là, il y a un débat important pour savoir ce qu'on...
Qui, à l'heure actuelle, n'est pas tranché. On ne sait pas précisément si les Romains maîtrisaient justement la reproduction des espèces de poissons.
Ah oui, d'accord.
En tout cas, pour ce qui est de l'élevage des poissons, on sait que ça existe. Et du coup, dans les viviers qu'on a, même si on ne retrouve pas systématiquement les poissons à l'intérieur, on a quand même des structures qui montrent que c'est quelque chose d'important. Et un autre débat, on parle, c'est souvent, on est cerné par les débats.
La recherche est émaillée de débats.
Et du coup, un autre débat, c'est de savoir si les viviers sont une source justement de richesse pour les aristocrates qui possèdent ces viviers dans leur villa, si ça leur permet justement d'avoir une rentrée de revenus pour y couler du poisson frais. C'est la question qui se pose notamment pour les viviers qui sont attachés aux villas tout autour de Rome.
Ouais.
La question est de savoir, du coup, s'ils alimentent Rome en poisson frais grâce à leur villa, ou si c'est simplement, on va dire, un élément qui fait partie du décor architectural d'une villa et que, dans cet esprit de m'as-tu vu, il faut que chaque aristocrate, dans sa villa au bord de la mer Tyrrhienne, ait un vivier aussi grand, si, en tout cas pas plus petit que celui du voisin.
Voilà. Ah oui, c'est ça, une marque de richesse.
Exactement.
En quelque sorte. Et dans ces produits, est-ce que les algues sont aussi consommées? Vous avez une idée ou vous n'avez pas rencontré ça?
Ça, c'est une bonne question, mais pour le coup, vu que c'est quelque chose qui ne laisse aucune trace, là, on n'aura pas de reste, c'est quelque chose qui est difficile à tracer.
Mmh. Même dans les écrits, dans les...
Non, d'après ce que je sais, je ne crois pas que les algues soient pas... Ça a pu être consommé, je ne pense pas que ça fasse partie de la diète classique, on va dire. Mmh.
Ces poissons, ces coquillages, se mangent crus, bien évidemment, cuits, conservés, on va en parler un petit peu après. C'est-à-dire qu'il y a des tas de formes de consommation, ce qui nous amène peut-être à la gastronomie. Est-ce que le poisson est considéré comme un produit qui est toujours gastronomique, ou est-ce que ça varie? Est-ce que c'est une nécessité pour pouvoir se nourrir? Est-ce que c'est... Tout à l'heure, vous parliez du mariage avec les huîtres, qui constitue bien sûr un plat de roi, en quelque sorte.
Oui, oui. Mais en fait, c'est vrai que du coup... À partir du moment où on ne consomme pas le poisson frais, il n'y a grosso modo que quatre méthodes en fait pour consommer du poisson tout au long de l'année. C'est donc soit les deux méthodes les plus simples, c'est de faire sécher ou de fumer du poisson, ce qui se fait encore aujourd'hui. Hein, mm-hmm. Et là, pour ça, dans l'Antiquité, on connaît des zones qui sont réputées pour ça, notamment en mer Noire. Et hormis ces deux techniques qui sont très simples à mettre en place et qui, du coup, pour nous, archéologues, sont très difficiles à cerner, puisque en effet... Faire sécher du poisson, il suffit de le vider, de l'ouvrir en deux, de le mettre à sécher, de l'exposer au vent pour faire évaporer en fait l'eau qui est dans ses tissus. Le fumage, ça consiste dans la même chose, c'est que du coup on va évacuer l'eau des tissus du poisson et en la remplaçant par une fumée de bois.
Mmh.
Donc ça, c'est les deux méthodes qui sont les plus simples mais les plus difficiles à cerner. En revanche, du coup, on a deux autres méthodes qui, elles, nous ont laissé plus de traces à la fois archéologiquement et dans les sources littéraires. Qui sont le poisson salé et les sauces de poisson.
Alors, voilà. Là, on rentre dans le cœur de vos travaux, en quelque
c'est
sorte.
Ça, oui.
Alors, ces sauces de poisson, ça existe encore aujourd'hui en Asie. Hein,
en Asie, et aussi plus proche de nous, on en fait aussi en Italie. C'est une sauce qui s'appelle la colatura di alici, donc ce qu'on pourrait traduire par une coulée d'anchois.
Ah oui.
Et c'est un produit qui est assez cher, hein, parce que justement, ça demande un savoir-faire, et on le fait donc à partir d'anchois. Et du coup, c'est un processus qui demande de placer dans un tonneau, en fait, des couches de sel et d'anchois.
Uh-huh.
On va laisser le produit macérer pendant 2 à 3 mois. Et au bout de cette période, en fait, on va juste faire un trou dans le fond du tonneau et va s'écouler un liquide assez pur, de couleur ambrée, donc ce qui est cette fameuse coulée d'anchois. Et on sait qu'avec entre 30 et 50 kilos de poisson, on fait à peine 2 litres de cette sauce de poisson.
Ah oui, d'où le prix.
D'où le prix.
Ouais.
Et on sait aussi que c'est quelque chose qui s'utilise avec parcimonie, puisque les Italiens qui le consomment aujourd'hui nous disent dans leur recette qu'une cuillère à café suffit à parfumer tout un plat pour 4 personnes, par exemple.
Ah oui, d'accord.
Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte pour l'Antiquité, c'est que le garum qui voyage, etc., c'est quand on parle d'amphores de garum qui circulent en Méditerranée, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une amphore de vin, puisqu'elle ne va pas être consommée à la même vitesse, on va dire.
Oui, c'est vrai.
Normalement.
Oui, normalement. Enfin, ça, on ne sait jamais après. Hein. Et donc, cette sauce de poisson, alors j'ai lu dans vos travaux qu'il y avait tout un processus de fabrication important, construit, maçonné, etc., etc. J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus là-dessus.
Mais alors, du coup, oui. Donc, dans les sauces de poisson, en fait... On va les produire dans des ateliers de ce qu'on appelle des ateliers de salaison aujourd'hui. C'est que tout simplement, on va mettre dans un bassin. Donc pour l'Antiquité, ce sont souvent des bassins en ce qu'on appelle en béton de tuileau. Donc c'est-à-dire que c'est des bassins étanches. On va mettre en alternance des couches de poisson et des couches de sel. Et on va laisser, en fait, l'important, c'est de laisser les viscères du poisson à l'intérieur. Puisque ce sont les agents qu'on dit autolysants, qui sont compris dans les viscères du poisson et qui se mettent à fonctionner dès que le poisson meurt, dès qu'il sort de l'eau,
mmh.
qui du coup vont commencer à décomposer le poisson, mais pour ne pas que ça devienne du poisson pourri, on met du sel, ce qui fait que le sel va jouer une espèce de rôle d'agent sanitaire, qui fait que
d'accord.
du coup on va pouvoir avoir du garum sans mourir intoxiqué en ayant consommé du poisson pourri.
Et vous avez vous-même pratiqué des recherches dans ces bassins. Alors j'ai trouvé ça assez intéressant là, puisqu'on trouve encore aujourd'hui dans ces bassins des traces de ce travail industriel en quelque sorte.
C'est ça, c'est que les sources nous disaient que, elles nous disent, pardon, que dans l'Antiquité, il y a grosso modo quatre types de sauces, qui sont donc le garum, qui est la plus fameuse de toutes ces sauces, le liquamen, donc qui est une sauce qui est semblablement de qualité légèrement inférieure, mais qui doit être assez proche. On a ensuite la muria, qui doit être du coup une saumure assez basique. Et le dernier produit, c'est l'alec, qu'on pourrait qualifier de... C'est une pâte de poisson qui est très proche, en fait, sans doute, du pisala qu'on a aujourd'hui en Provence.
Ouais.
C'est en fait tout simplement, c'est qu'on récupère les restes de poissons décomposés et du coup, comme on le fait aujourd'hui avec les anchois à Nice, où
d'accord.
En fait les anchois et le sel ont interagi et ont composé une espèce de purée de poisson. Et donc ça, l'un des seuls moyens pour voir comment on produit ce genre d'éléments, c'est ce que j'ai essayé de faire. En effet, du coup, pendant ma thèse, je m'étais amusé à faire du garum à la maison.
Ah oui.
Plutôt qu'aller voir la méthode de production en Asie, qui semblait un peu loin. En partant des recettes antiques, j'ai dans un aquarium, pour voir justement comment ça se passait, pour voir en coupe comment se décomposait le poisson, j'ai placé des sardines et du sel en alternance. Et donc, pendant plusieurs mois, j'ai remué la préparation.
Ça va, les voisins ne se sont pas plaints.
Et justement, c'était pour ça que je l'ai fait, parce que c'est un des... Maintenant, j'espère que c'est plus un débat, en tout cas. On dit justement que les sauces de poisson, c'était quelque chose d'affreux, que les Romains devaient s'intoxiquer avec ça, que ça devait être une puanteur pas possible. Sauf qu'on a très peu de sources, en fait, qui nous disent que le garum est quelque chose d'atroce, quoi. C'est au contraire, tout le monde veut avoir du garum dans son assiette. Donc, c'est qu'au final, ça devait pas être si mauvais que ça. Et donc, l'une des questions, c'était de savoir si, justement, le garum, est-ce que quand on en produit, est-ce que du coup il faut s'éloigner en courant ou est-ce que...
Et oui.
Parce qu'une des questions aussi, c'est que des ateliers de production de garum, on en connaît dans les villes. Donc si c'est quelque chose qui est si pestilentiel, peut-être qu'on a réussi à s'en accommoder.
Ouais.
Tout comme on a des exemples de tanneries qui sont dans des villes antiques. Donc on sait que aussi ces activités-là produisent une certaine odeur. Donc c'est-à-dire que déjà aussi, le rapport des anciens aux odeurs était bien différent du nôtre. Il y a une évolution des mentalités par rapport à ça.
Oui, c'est sûr. Et donc, vous avez voulu en avoir le cœur net.
Exactement. Et donc, j'ai fait du garum à la maison. Personne n'est mort. Aucun chat n'a été attiré, justement, parce que ce qui est intéressant, c'est que, justement, le sel jouant ce rôle d'agent sanitaire, il n'y avait pas d'odeur, en fait. Ou pratiquement pas, quoi.
Mm-hmm.
Donc, c'était intéressant de ce point de vue-là. Et puis, c'est aussi le but de voir, dans la durée, comment se décomposait le poisson et le temps que ça allait prendre. Et donc,
d'accord.
Ça a pris, en effet, plusieurs mois pour voir, justement, se décomposer les chairs de poisson et qu'il ne reste plus que les têtes, les arêtes et les écailles. Et ça, c'est intéressant parce que dans certains ateliers qu'on a sur tout le pourtour méditerranéen, on trouve parfois, et ça a été notamment le cas à Nabeul, dans la fouille d'un collègue qui s'appelle Michel Bonifay, ça a été étudié par une autre collègue qui s'appelle Miriam Sternberg, où du coup, au fond des bassins, on a trouvé des restes de poissons, justement, ce qui permet de comprendre le type de produit qui était préparé.
Ah oui, du reste de poisson qui date de cette période-là.
C'est la dernière production de l'atelier, en fait.
D'accord, c'est le fond du bassin.
Exactement, oui.
D'accord. Et donc, dans ces quatre productions, finalement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire c'est l'échelle sociale.
Exactement.
Qui est inscrite dans ces quatre produits.
C'est ça, le garum, et du coup, par exemple à Pompéi, on a certaines enfants qui se vantent de contenir de... ce qu'on appelle un garum floss, donc c'est la fleur de garum, c'est ce nec plus ultra du garum. Et on a aussi d'autres conteneurs qui contiennent donc les autres produits, donc le liquamen, la muria, et ce fameux alec, donc la pâte de poisson. Donc on sait qu'il y a une gamme en fait, de produits qui est accessible à toutes les bourses.
Ouais. Et ça permet finalement d'avoir... vous pouvez en tirer des conclusions sur la société d'un quartier, d'une ville, où se répartissent les gens qui sont plutôt aisés et les gens plutôt pauvres de cette façon-là.
Ça, on aimerait bien le faire, mais c'est difficile à faire, puisque notamment, on penserait évidemment en premier cas à Pompéi, où on se dirait qu'il suffit d'aller à Pompéi, de prendre un quartier, de voir justement si c'est un quartier populaire ou plutôt un quartier aisé. Tout le problème, c'est que Pompéi, telle qu'on la voit aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle était en 79, ce n'est pas la Pompéi qui aurait dû être une ville romaine classique, puisqu'on sait que la ville, grandement détruite après le tremblement de terre de 62 ou 63 après Jésus-Christ, a été considérablement remaniée. C'est une ville en reconstruction, donc avec des quartiers qui sont, on va pas dire squattés, mais en tout cas occupés par des gens qui ne sont plus les habitants d'origine. Ouais. On sait qu'il y a des gardiens dans les maisons, justement, qui gardent les maisons pour les propriétaires qui sont partis sans doute s'installer ailleurs en attendant que les maisons soient reconstruites. Et du coup, même si on arrivait à faire cette étude, en fait, on aurait une vision forcément biaisée, en fait.
Oui, d'accord. Oui, oui, c'est difficile d'avoir une vision très, très, très claire. Ça pourrait éventuellement contribuer à d'autres explorations. On va encore écouter un peu de musique avec ce poème symphonique de Debussy qui s'appelle « La mer ». Donc, avançant dans notre exploration, tout à l'heure, je vous demandais quelle était la place du poisson et des produits de la mer dans la gastronomie. On a un peu dévié sur vos travaux plus précis concernant les cuves et puis les problèmes donc de ces sauces de poisson. Alors, la gastronomie, c'est romain. Qu'en font-ils de ce poisson, de ces coquillages, etc.
Mais alors, hormis le poisson frais, ce qu'on sait, c'est que le poisson salé, du coup, fait partie de la diète sans doute au quotidien, puisque c'est quelque chose, justement, à partir du moment où on produit de la viande salée ou séchée, que ça soit de la viande animale, enfin, ou du poisson, c'est quelque chose qui, du coup, est facile à transporter, qui, du coup, peut être conservé et consommé après plusieurs semaines, voire plusieurs mois. On a là de bons exemples, notamment dans le désert égyptien, où on sait d'après les sources que justement la viande et le poisson peuvent être conservés plusieurs semaines sans aucun problème. Donc ça, on sait que ça existe. Pour ce qui est de la gastronomie au sens propre, ce qu'on peut dire, c'est que les textes gastronomiques, on ne va pas dire qu'il y en ait beaucoup pour l'Antiquité, le seul qu'on cite souvent, c'est le texte d'Apicius, qui du coup nous donne toute une liste de recettes. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Apicius ne cite jamais le sel, mais il dit que dans tous les plats, il faut mettre du garum. Donc ça montre bien qu'en fait le garum n'est pas juste, c'est pas du poisson pour en parler, en tout cas aux yeux des Romains, c'est une sauce, c'est un condiment, tout comme le vinaigre, etc. Et que du coup pour rehausser les goûts des plats, on va mettre quelques gouttes de garum au lieu de mettre du sel.
Ah oui, d'accord.
Et c'est là que c'est intéressant, c'est que du coup tous les plats, hein, que ça soit des plats à base de légumes, de viande, etc., pas uniquement de poisson, il dit toujours de rajouter un peu de garum.
Ah oui, d'accord. C'est la poudre de perlimpinpin de la gastronomie romaine.
C'est ça.
En quelque sorte. Ah oui, oui, d'accord, ouais. Et donc, à l'autre extrémité, donc, les gens modestes qui, finalement, se contentent de la dernière,
dernière couche, on va dire.
La dernière couche, voilà, de cette préparation. Alors maintenant, Emmanuel Bott, venons-en un peu à la conservation. De quelle façon donc cette conservation se fait? Alors on a parlé du sel. Ces conserves, comment sont-elles faites et quels sont les éléments que vous avez pu trouver dans vos recherches ou depuis votre thèse concernant cette conservation? Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Arles qui est intéressant et qui est important.
Ben oui, en fait, une fois qu'on a identifié les produits dont on parle, ce qui est intéressant, c'est de voir justement comment ils voyagent. Et dans ce cas-là, bah, comme on le disait tout à l'heure, du coup, les deux éléments qui sont les plus simples, donc poisson salé, poisson séché et poisson fumé, malheureusement, on n'en a jamais la trace. En revanche, pour ce qui est poisson salé et du coup et les sauces, dans ce cas-là, il faut des conteneurs pour les transporter, puisqu'il s'agit de produits liquides ou en tout cas semi-solides. Et dans ce cas-là, il nous faut des éléments pour les transporter. Donc on sait que dans l'Antiquité, premièrement, il y a eu des conteneurs en céramique. Et là, du coup, ça va dépendre de la région de production, puisque dans l'Antiquité, grosso modo, en tout cas pour l'époque romaine, il y a différentes zones qui sont très réputées. La première, c'est le détroit de Gibraltar, qui est qui représente, on va dire, un héritage phénico-punique, puisque du coup, on sait que, notamment à Cadix, qui est l'ancienne Carteia, c'est une ville, une cité punique, phénico-punique, dans laquelle on a les premières traces de production de dérivés de poissons dès le VIe siècle avant notre ère. Et ça nous a permis de trancher aussi un débat, un de plus, sur justement qui étaient les inventeurs des conserves de poissons. Puisqu'il y avait un débat justement sur savoir si c'était plutôt les Grecs ou plutôt les phénico-puniques, puisque des textes du 5e avant, du 5e siècle avant notre ère nous disent qu'à Athènes, on consomme du poisson salé qui vient du détroit de Gibraltar, mais aussi du pont Euxin, donc de mer Noire. Ouais. Sauf que du coup, en mer Noire, on voit plutôt des occupations grecques, et du côté du détroit de Gibraltar, plutôt des populations puniques, phéniciennes.
Donc, c'est pas tranché.
Ben, aujourd'hui, du coup, vu qu'on a les ateliers, cette fois, qui sont bien attestés dans le monde phénico-punique, on a plutôt tendance à dire que c'est plutôt une invention des phénico-puniques qui ont perfectionné la méthode et qui l'ont ensuite développé et répandu dans leur territoire. C'est pour ça qu'ensuite, on voit notamment apparaître des ateliers à partir du 5e et 4e siècle avant notre ère dans le monde phénico-punique en Sicile.
D'accord.
Et en revanche, du coup, une des autres questions qui n'est pas tranchée, c'est de savoir comment, dans le monde grec, on effectue des salaisons, enfin en tout cas des conserves de poissons, puisque pour le monde grec, on ne connaît pas d'atelier de bassin à proprement parler avant une période assez haute, et notamment en mer Noire, où du coup, on se dit que peut-être que là, ils ont plus fait justement du poisson séché, qui du coup ne laisse pas de traces, ou alors, s'ils ont fait du poisson salé ou des sauces, ils ont pu les faire dans des structures en bois, qui dans ce cas-là ne nous auraient pas laissé de traces.
Ouais.
Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'à l'époque romaine, aussi bien la mer Noire que le détroit de Gibraltar, et puis ensuite l'Afrique du Nord va être aussi un élément important, on va voir fleurir sur les côtes de ces trois endroits des bassins vraiment partout. On parle même des fois de quartiers industriels, hein, puisque l'exemple le plus fameux, c'est celui de Troia au Portugal, où du coup, là, on est sur la côte atlantique, mais on a découvert, c'est encore partiellement bien préservé aujourd'hui, c'est sous une dune, on a découvert 52 usines qui comportent au minimum chacune est composée d'une dizaine à une vingtaine de bassins.
Ah oui, c'est une zone industrielle.
Exactement, c'est un quartier industriel.
Ah oui, c'est remarquable ça.
Donc ça nous permet, après il y a d'autres exemples aussi, hein, mais du coup celui-là c'est celui qu'on cite le plus souvent parce que il suffit d'aller faire un tour sur Google Earth pour voir justement apparaître tous les bassins, les batteries de bassins et les usines alignées les unes derrière les autres. Et on sait qu'elles sont toutes contemporaines et qu'elles ont fonctionné depuis le 1er siècle de notre ère jusqu'au, sans doute, au 4e ou au 5e. Et donc on voit justement ce qu'est vraiment une production qu'on pourrait qualifier d'industrielle. Oui.
Alors, tout à l'heure, vous me parliez donc de Gibraltar, et je lisais, vous allez me donner votre opinion là-dessus, je lisais que Pline l'Ancien parlait de combats de baleines près de Gibraltar et qu'une équipe du CNRS récemment aurait trouvé des eaux de baleines en faisant des fouilles dans les environs de Gibraltar. L'équipe du CNRS qui était dirigée par Anna Rodriguez, que vous connaissez peut-être.
Oui, en fait, du coup, c'est une des questions de savoir si justement les baleines font partie de la diète. On sait que ça en fait partie, on sait que les baleines sont utilisées. La question, c'est de savoir, est-ce qu'elles sont pêchées volontairement ou est-ce qu'on récupère les baleines qui sont échouées sur le rivage?
Ah oui.
Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de tabou. Par exemple, en mer Noire, les sources nous disent, qu'on consomme du dauphin, que ça fait partie de l'alimentation. C'est pas une espèce protégée.
Ouais.
Pas encore, en tout
cas. On connaissait pas.
Il n'y a pas encore de marine land, donc la question se posait pas. Mais pour les baleines, on en a retrouvait notamment dans les ateliers de conservation dans les trois du Gibraltar. Et on a, un texte antique qui nous dit justement, et là c'est intéressant parce que là, il nous décrit comment les Romains pêchent la baleine, et il nous décrit une méthode qui est parfaitement semblable à une technique qui est décrite chez les Inuits, où en fait, à l'aide de harpons auxquels on a accroché des outres remplies d'air, on va harponner la bête, et à chaque fois qu'elle remonte, eh bien, on la harponne, et puis à force du coup d'être harponné avec la planté par tous ces harpons accrochés à des outres remplies d'air, la baleine s'épuise parce que du coup elle cherche à redescendre, mais du coup l'air la fait remonter à chaque fois, et puis elle finit par s'épuiser, et du coup ils finissent par l'achever et l'attirer sur le rivage, ce qui du coup en effet compose une pêche, on va dire, exceptionnelle, parce qu'on se retrouve avec une quantité de viande à traiter, ce qui est aussi sans doute à l'origine, que ça soit pour le thon notamment, le fait, c'est que ce sont des espèces dites pélagiques et qui, du coup, rentrent en Méditerranée une fois par an pour se reproduire, parce qu'elles vivent dans l'océan Atlantique. Et du coup, elles rentrent vraisemblablement au mois de mai pour se reproduire. On connaît aujourd'hui deux grandes zones de reproduction du thon rouge, qui sont au large des Baléares et au large de la Sicile. Et donc, les thons rentrent par des bancs de plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire milliers d'individus. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans l'Antiquité, quand les pêches, notamment avec les madragues, se sont mises en place, on s'est retrouvé avec des centaines de poissons qu'il fallait trouver un moyen de conserver pour ne pas les perdre, du coup. Ah ouais. Ce qui est sans doute à l'origine, justement, de l'invention des techniques de conservation, donc salage notamment, et puis ensuite les sauces, parce qu'il fallait trouver justement des méthodes pour...
Pour garder
ça et que ça ne soit pas gâché, justement, alors que du coup, on sait qu'ils pouvaient capturer des bêtes qui faisaient plusieurs mètres et plusieurs centaines de kilos.
Oui, donc il fallait bien en faire quelque chose.
C'est ça.
Alors, sur la conservation, on a parlé tout à l'heure de ces amphores dans lesquelles on pouvait éventuellement mettre des produits de la mer. Et je crois savoir, et vous allez nous éclairer là-dessus, qu'il y a eu une découverte intéressante qui a permis d'avoir... d'aboutir à quelques hypothèses à Arles sur ce fameux bateau qui est sorti donc du Rhône et qui est maintenant exposé donc au musée antique d'Arles.
C'est ça, parce que du coup c'est vrai que généralement quand on parle du commerce du poisson, on a tendance à considérer uniquement donc les amphores et donc avoir ça en gros. On peut aussi penser au tonneau, puisqu'on sait que le tonneau sans doute dans le courant du XIIe siècle de notre ère a remplacé l'amphore, puisque du coup ça représentait un gain de place et de rentabilité colossal. Et on sait que à côté de cela aussi, il y a aussi des transports dans des objets plus discrets. Ça, on en connaît deux types. Du coup, le premier, c'est à Pompéi. Ce sont ce qu'on appelle les urcéi. En fait, ce sont des petites bouteilles qui font entre 30 et 50 cm de haut, qui contiennent quelques litres de garum. Et on sait que ça, justement, c'était produit à Pompéi, puisqu'on a la chance, c'est l'une des chances de Pompéi, c'est que les objets ont conservé leurs inscriptions peintes, donc leurs étiquettes. Et du coup, on a sur ces objets-là le nom du produit, le nom du producteur. Et on a tout, en fait. On a vraiment l'étiquette au complet. Et donc, grâce à ça, on a pu faire des avancées colossales, justement, sur la nature des produits, sur leur distribution dans la ville.
Et oui, c'est ça, ouais.
Et si ce n'est que Pompéi compose aussi un problème, puisque ce sont essentiellement des fouilles anciennes. Et donc, savoir précisément... dans une ville qui est fouillée depuis plus de deux siècles, c'est compliqué de remonter à l'information d'origine. En revanche, du coup, comme vous le disiez pour Arles Rhône 3, on a aussi progressé sur un type d'objet qu'on appelle traditionnellement les podulatiums. En fait, ce sont de petits pots en céramique qu'on connaissait de manière, aléatoire, qui avaient été trouvés quelques endroits. On en connaissait un peu dans le port de Rome, à Ostie, on en connaissait un peu à Rome même, il y en avait un peu à Pompéi. Et puis, grâce aux découvertes, notamment menées par David Jaoui à Arles, on en a découvert plusieurs dizaines, dont certains avaient encore leur contenu, ce qui a permis de faire des analyses, donc avec un archéologue qui s'appelle Gaël Piques, et du coup, de travailler sur le contenu de ces pots. Et il en ressort que les contenus étaient du maquereau, mais aussi certains contenaient les têtes des maquereaux, ce qui nous amène à considérer que c'était sans doute des produits plutôt de qualité assez basse, et ce qui nous a amené à proposer l'idée que ces éléments-là, ces podulatiums, étaient le matériel de bord des marins, en fait. Puisque si ce sont des podulatiums, donc de l'Italie centrale, et que l'essentiel du commerce passe par Rome et que les bateaux remontent notamment vers la Gaule pour accéder à Arles, En effet, du coup, les marins ont pu avoir ce genre de pot pour leur alimentation pendant le
voyage. C'est leur consommation.
Voilà.
C'est leur consommation normale.
Voilà.
D'accord. Okay. On va faire une petite pause musicale avec Serge Lama, la chanson des pêcheurs.
J'arrivais tous les matins de bonne heure acheter leur pêche aux pêcheurs. Puis j'étalais les cageots de poissons juste là devant ta maison. Il y avait la mer, les bateaux qui rentraient, il y avait le soleil qui pointait. Il y avait du vent, les voiles qui claquaient et les femmes qui attendaient.
Voilà, vous écoutez Radio Zinzine, l'émission Mare Nostrum, qui est consacrée aujourd'hui à la pêche dans l'Empire romain. Et nous sommes en compagnie d'Emmanuel Bott, chercheur au CNRS. Et nous allons maintenant vous parler un petit peu du commerce, de la distribution de ces produits de la mer. Est-ce que ces produits de la mer ont un rôle particulier ? D'abord, on va serrer les choses. D'abord dans l'économie locale. Tout à l'heure, on a un petit peu ébauché en parlant d'une véritable zone industrielle. Est-ce qu'il y a des activités annexes qui s'organisent et qui donnent lieu à une entité industrielle importante ?
Oui, ben c'est sûr qu'il y a des zones qui sont réputées pour cela et on voit bien que ça fait partie de leur économie principale. On citait tout à l'heure l'Espagne et en effet, tout ce qui est la zone du détroit de Gibraltar, mais en fait, tout, grosso modo, on va dire toute la côte de l'Andalousie et en remontant jusqu'au Portugal, ces productions-là sont aussi importantes que les productions de vin ou d'huile. Notamment pour l'Espagne, on voit bien que justement le vin ne fait pas partie, comme on pourrait le considérer ou le croire, hein, des éléments les plus importants. Pour l'Espagne, ce sont le poisson et l'huile qui composent, les principales richesses. Après, ça dépend des régions aussi. Par exemple, la Gaule n'est pas réputée, par exemple, pour ses productions de poissons. Et en revanche, pour ce qui est du vin, son affaire n'est plus à défendre. On sait justement la réputation qu'a la Gaule et on le sait avec les amphores qu'on trouve partout en Méditerranée, notamment à Rome, qui va être la première consommatrice, que ce soit de vin ou de poisson, puisque à l'époque romaine, on estime que Rome est composée d'environ 1 million d'habitants, ce qui fait donc 1 million de bouches à nourrir.
Et oui, c'est ça.
Et donc, en plus du vin et de l'huile, il est évident que le poisson a constitué une denrée calorique considérable.
Mmh. Oui, c'est intéressant parce que finalement, on a souvent pensé, pour les gens ignorants comme moi, que les amphores c'était essentiellement pour le vin. Et puis, on apprend, en particulier avec vos travaux, que finalement, les amphores c'était d'autres choses. Donc, en particulier, produits de la mer et d'autres choses.
C'est ça qui est intéressant, c'est que les amphores, en effet, du coup, on a le vin, puis on a l'huile, mais en effet, maintenant, avec les travaux qui sont déjà faits bien avant moi, d'autres spécialistes, du coup, on voit bien que le poisson fait aussi partie de la triade des produits qu'on trouve en amphore. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait partie des produits qu'on va trouver aussi dans les tonneaux. Et ça, du coup, c'est intéressant parce qu'on a toujours tendance à considérer et à évaluer le commerce uniquement par rapport aux bateaux et aux amphores qu'ils transportent. Mais du coup, on sait aussi qu'il y a toute une partie du commerce qui existe, on va dire, à partir du deuxième siècle de notre ère, qui se fait en tonneau et qui, du coup, elle, nous a laissé très, très peu de traces, puisque, justement, le tonneau étant en bois, il disparaît, et contrairement à l'objet en céramique qu'est l'amphore. Et du coup, on devient totalement... on a les mains vides, en fait, si on veut essayer de comprendre le commerce qui existe à partir de cette époque, puisque...
On
n'a rien à se mettre sous la main, donc il faut espérer... et attendre des découvertes exceptionnelles comme on en connaît. Il y en a une qui est intéressante d'ailleurs, c'est une découverte qui a été faite à Vidolanda, donc c'est un fort d'époque romaine sur le mur d'Adrien et en Angleterre. Et du coup, justement, on est dans un milieu qu'on dit anaérobie, donc là, où le bois est conservé. Et là, dans ce fort-là, on a découvert, si je ne me trompe pas, à peine une dizaine d'amphores pour plus de 80 ans d'occupation du fort, ce qui serait quand même assez faible. Et grâce au bois qui a été conservé, on a pu retrouver, si je ne me trompe pas, une vingtaine ou une trentaine de tonneaux, mais qui, pour certains, comportaient plusieurs centaines de litres. Et d'un coup, on se retrouve à voir les Romains, qui, notamment les soldats, qui consommaient du vin. Et là, du coup, on rentre dans un schéma qui est beaucoup plus traditionnel et qui est plus rassurant, on va dire.
Ah oui, d'accord, carrément. Ils transportaient leur réserve comme ça jusqu'au mur d'Adrien.
Voilà, et donc on a découvert à la fois des tonneaux donc de petits gabarits, mais aussi vraiment des foudres, donc avec plusieurs centaines de litres de vin.
Ah oui, oui, oui. Et dis-toi si je me trompe, il me semble me souvenir que le tonneau, c'est une invention des Gaulois, dit-on.
On dit que c'est une invention des Gaulois. En tout cas, en effet, les Romains, qui ne sont pas totalement idiots, ont bien compris l'avantage qu'il y avait à copier cette méthode. Et,
c'est plus léger, c'est plus pratique.
C'est plus rentable, c'est plus facile à manier. Ouais. Et puis à charger dans un bateau, on a...
Ça se casse pas.
On a un rapport contenant-contenu qui est beaucoup plus intéressant. Parce que une amphore vide, on va dire, il n'y a pas de standard propre, mais une amphore vide pèse facilement entre 20 et 30 kilos. Sachant qu'elle va contenir à peu près l'équivalent, on est dans un rapport de, grosso modo, de 1 pour 1.
Oui.
Alors que du coup, avec un tonneau, le rapport s'inverse totalement et du coup, on va avoir un objet, un tonneau qui va peser quelques dizaines de kilos, mais qui va pouvoir contenir plusieurs centaines de litres. Et donc, évidemment, là...
Oui, c'est quand même beaucoup plus intéressant.
Les Romains malins ont vu tout de suite l'intérêt qu'il y avait à changer,
pour alimenter les troupes,
à abandonner les enfants et à passer au tonneau. Oui.
Et est-ce que autour de ces conserveries de poissons, est-ce qu'on trouve également des fabrications d'amphores, des fabrications de tonneaux? Est-ce qu'il y a des traces? Non.
Alors, les fabrications de tonneaux, c'est compliqué.
C'est compliqué.
Évidemment, vu que c'est du bois, on a peu de traces. Pour les amphores, c'est un peu plus facile à suivre, parce que une fois de plus, on va revenir sur les cas de l'Afrique et de l'Espagne, puisque du coup, ce sont les zones où, en effet, on connaît beaucoup d'ateliers de transformation du poisson, et aussi tout autour des ateliers de production d'amphores. Et ça, on a en plus la chance que dans certains endroits de Méditerranée, on ait trouvé ces amphores-là avec leurs inscriptions peintes, donc leur étiquette, qui nous indique justement d'où vient l'amphore, quel était son producteur. Et du coup, et parfois même sa destination, et du coup, on a surtout en première ligne le nom du produit. Donc, on sait précisément de quel type de produit il s'agit, si c'est des sauces, des salaisons. On a parfois même le nom de la ville où ça a été produit. Donc, là, c'est quand on a beaucoup de chance. Là.
Ah oui, ça c'est extraordinaire. L'archéologue n'a plus rien à faire finalement. Il n'a qu'à lire.
Il suffit de lire. Faut lire un peu le latin cursif, mais ça se fait.
D'accord. Et donc on peut voir se mettre en place autour de ces fabrications, de ces conserveries, des fabrications d'objets destinés à conserver et à transporter le poisson. Alors, quelle est l'importance des produits de la mer dans le commerce dans l'Empire romain? Est-ce que c'est important? Est-ce que la part est importante?
À dire la première chose qu'on pourrait faire, c'est de chercher justement sur le nombre d'épaves qu'on connaît en Méditerranée, combien transportent des amphores de poisson. Ça, en effet, on voit bien que c'est une part non négligeable. On va dire, je n'ai pas fait le calcul, parce que du coup, ça dépend des périodes et des routes commerciales. Mais il est sûr que on connaît notamment pour l'Espagne, une fois de plus, des épaves qui sont notamment au sud de la Corse, qui sont dans un état de conservation vraiment remarquable et qui ont à leur bord plusieurs centaines, voire milliers d'amphores justement à poissons, et qui sont associés, et ça c'est un élément intéressant, c'est qu'ils sont associés justement à des lingots de métal, et c'est généralement du plomb, puisque du coup on voit bien que la route principale, en fait, quel que soit l'endroit d'où l'on parte, on va dire, le point de destination principal, c'est Rome. Parce qu'évidemment, Rome est la première bouche à nourrir. Rome est assoiffée non seulement de vin, mais aussi d'huile et de poissons et de toutes sortes de richesses. Et donc, il faut alimenter Rome. Et du coup, on voit bien que dans les épaves que l'on trouve, beaucoup sont orientés en tout cas vers Rome. Et, par exemple, les épaves qu'on trouve en Corse, sans aucun doute, ce sont des bateaux qui sont partis du sud de l'Espagne, peut-être de Carthagène ou d'un port voisin, et qui sont passés justement entre la Corse et la Sardaigne, qui est réputée pour ses vents mauvais, et donc certains bateaux ont été piégés dans ces tempêtes et ont sombré, mais ce qui a fait notre chance, hein, puisque on trouve des bateaux qui sont dans un état de conservation remarquable, et surtout avec leur cargaison.
Il faut qu'il y ait des naufrages pour les archéologues.
Malheureusement, pour les marins, oui.
Ah ben ça, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Donc c'est un commerce important, même si on ne peut pas le chiffrer précisément, ce qui est un peu normal. Il faudra avoir une vue d'ensemble, encore que...
d'ensemble, et puis une autre question qui est compliquée, c'est que dans un atelier de production... C'est difficile de savoir combien de temps il a existé, parce que là, par exemple, est-ce que tous les bassins qu'on connaît fonctionnent tous en même temps? Ce qui est difficile aussi à cerner, c'est de savoir si les bassins produisent du poisson salé ou des sauces, parce que du coup, ce n'est pas le même produit. Et du coup, le temps de, on va dire, pendant lequel les bassins sont bloqués n'est pas le même, parce que par exemple, quand on fait des salaisons, en 10 à 15 jours, le produit est prêt. Alors que si on fait des sauces, les bassins sont immobilisés, sont condamnés pendant plusieurs mois.
Eh oui.
Du coup, on fait pas le même type de produit.
Oui, donc c'est compliqué. C'est compliqué. Et à partir de ça, est-ce que on peut imaginer que le commerce maritime est relayé après par un commerce terrestre important?
Oui, ça, on sait que ça existe, hein, parce que là. On en a, on pourrait citer par exemple les reliefs de la colonne Trajane, donc ou à Rome, où on voit bien justement que toutes les marchandises qui arrivent dans un port, ce n'est pas forcément leur destination finale, mais elles vont ensuite subir ce qu'on appelle un parcours secondaire. Et ça, on a aussi parfois la chance de l'avoir sur les objets eux-mêmes, puisque parfois on a le nom d'un marchand secondaire qui est inscrit et on sait combien d'enfants il récupère. Qui était sur le bateau. Mmh. Et donc ça arrive de temps en temps. Après, c'est bien difficile de cerner justement quelle est la part de cette redistribution, on va dire, une fois que les objets arrivent dans les ports. Quelle part reste sur place pour alimenter, on va dire, un marché local et quelle part va repartir pour d'autres destinations. Parce qu'on sait aussi qu'il y a ce qu'on appelle le cabotage et que... les objets que l'on trouve dans un endroit ont pu transiter par bien d'autres ports. Et si, par exemple, on trouve un objet, on va dire, je sais pas, égyptien dans le port de Narbonne, il y a quand même peu de chances qu'il ait fait directement la route Alexandrie-Narbonne, mais qu'il y a toutes les chances qu'il ait transité par différents ports, notamment à Délos et à Rome ou à Pouzzoles, et que du coup, il ait peut-être même été chargé simplement par un autre bateau depuis Pouzzoles, car il était à Pouzzoles stocké depuis longtemps et...
Oui, c'est ça.
Qui ne sont pas arrivés directement d'Alexandrie.
Oui, c'est ça. Le commerce côtier, qu'on appelle le cabotage, est quand même très fréquent. Plus que la navigation hauturière, bien évidemment. On va faire encore une petite pause musicale avec une chanson adorable.
Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardine. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montre en commençant s'ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils, ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent être maquereaux, c'est pas elle qui les empêche de se faire des rêbles sur le dos dans un banc à peinture fraîche. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. C'est petit...
Ah, Bobby Lapointe, quelle belle chanson pour les enfants, mais pas que.
Non,
pas que. Alors, on va terminer cet entretien avec peut-être une question sur l'organisation du commerce. Est-ce que, dans l'importance de ce commerce, est-ce que c'est le signe qu'il y a une mobilisation de capitaux et une organisation qu'on pourrait presque appeler, osons le mot, pré-capitaliste ?
Il est sûr, en tout cas, qu'affréter un bateau, quel que soit son contenu, demande de bloquer des fonds importants, puisqu'on prend quand même un risque. Hein, ça, on le sait par les textes. On prend le risque que le bateau fasse naufrage et que, du coup, la cargaison soit totalement perdue. Et on sait qu'il existe des assurances, justement, contre ce genre de catastrophe. Toute la question aussi, c'est de savoir si, justement, en parlant de capitalisme, si on est dans une société où on a une offre qui crée une demande ou s'il y a une demande qui crée l'offre. On a plutôt tendance à considérer que c'est plutôt l'offre qui crée la demande. C'est qu'on est dans des endroits où on a un potentiel de production, hein, quelle que soit la nature du produit, que ce soit des métaux ou du poisson ou de l'huile ou du vin, et que ces zones-là ont une telle source d'abondance de production que certaines cités, et Rome évidemment en premier lieu, va finalement tomber sous le charme, on va dire, de ces endroits-là, et d'autant plus quand ils sont exotiques. Et dans ce cas-là, du coup, de devenir demandeuse de ces produits. Donc ouais. Au premier rang, évidemment, on va encore trouver l'Espagne et la mer Noire et l'Afrique.
Oui, les grandes zones
de production.
De production, bien sûr. Donc, écoutez, voilà, cet entretien donc, sur la pêche dans l'Empire romain qui nous a apporté beaucoup d'informations. Voilà, je vous remercie beaucoup, Emmanuel Bott. Je
merci
rappelle
à
que
vous.
Vous êtes toujours chercheur et encore chercheur au CNRS, au Centre Camille Julian, et vos travaux portés principalement sur la pêche dans l'Empire romain. Je rappelle également à nos auditeurs qu'ils peuvent nous écouter le jeudi à 12h30 et le samedi à 15h ou 19h en alternance sur 88.1 et sur le site radiozinzinex.org, en replay d'ailleurs, et également on peut télécharger l'émission dans la rubrique « Les émissions » Mare Nostrum, où vous avez toutes les émissions de 2018. Donc vous pouvez aller fouiner pour trouver des thèmes qui vous intéressent. Je vous invite aussi à nous suivre sur notre page Facebook, qui s'appelle Mare Nostrum, une émission de Radio Zinzinex, où sont annoncées les émissions et leur diffusion, ainsi que quelques informations complémentaires, comme les publications de nos invités, et puis les musiques que nous passons pendant l'émission. Donc voilà, notre émission est terminée. Emmanuel Bott, au revoir.
Au revoir, merci pour l'invitation.
On vous réinvitera, certainement, pour nous parler de vos prochaines recherches. Et à nos auditeurs, à la prochaine.
À bientôt.
On dirait un fanatique de la cause halieutique, avec sa belle canne et son moulinet. Mais s'il pêche, c'est pour rire, et l'on peut être certain que jamais sa poêle à frire vit le plus menu fretin. La pêche à ce qu'on raconte, pour lui n'est en fin de compte qu'un prétexte, un alibi, on connaît pis, un truc, un moyen plausible de fuir un peu son chez-soi, où sévit la plus nuisible des maritornes qui soit. Avec une joie maligne, il monte au bout de sa ligne tout un tas d'objets divers, des bouts de fer, des paillassons, des sandales, des vieilles chaussettes à clous, des noyers faisant scandale aussitôt qu'on les rend flous. Si déçu par une blonde, pensant faire un trou dans l'onde, tu tiens plus à te noyer qu'à te mouiller. Désespéré, fais en sorte d'aller piquer ton plongeon, de peur qu'il ne te ressorte à l'écart de son bouchon.